Les marchandes de sable, Orphée à la recherche d'Eurydice, de Clémentine Beauvais et Régis Lejonc. Chapitre 1. Les crocs du serpent. Tiens, voilà Eurydice qui arrive. Les arbres et les cours d'eau bruissent, des nymphes en émergent. Leur amie Eurydice est là, toute rose et brillante d'amour. Elle doit avoir des choses à dire. Alors raconte, Eurydice, vous faites quoi avec Orphée depuis votre mariage ? Chuchote la naïade Marcia, nymphe des sources glacées. Les nymphes interrompent leur danse, dégringolent de leurs arbres, de leurs rochers, sortent de leur cours d'eau et se précipitent vers Eurydice. Flip-flap, vives comme des libellules, elles s'installent autour de leur amie. « Plein de choses, » répond Eurydice. « On mange des noix, on boit du vin, on regarde les étoiles. »« Ils te chantent des berceuses ?» demande la brune Crypta, auréade des grottes obscures. « Et des poèmes dont tu es l'héroïne ?» s'enquiert Psamathée. Néréide des mers intérieures. C'est vrai qu'Apollon lui a donné une lyre fabriquée par Hermès ? Ajoute Sylva, Méliade des frênes touffues. Arrêtez, rigole Eurydice. Un jour vous vous marierez et vous verrez bien. Elle esquisse quelques pas de danse et se dirige vers le fleuve Péné. Elle déborde d'amour. Les oiseaux frétillent quand elle passe. Les ronces se rétractent. Les roses écartent leurs pétales. Les écureuils caracolent de chaîne en chaîne pour la suivre. Parfois, ploc, un petit gland tombe aux pieds d'Eurydice. Ses pieds sont nus parce que la nature est douce aux pieds des nymphes. Tout à coup, elle entend une mélodie qu'elle connaît. Elle lève les yeux. C'est lui, sur l'autre rive. « Bonjour, ma chérie !» Il joue doucement de la lyre et le cœur d'Eurydice tambourine au rythme des notes. « Orphée !» Chaque fois qu'il se voit, c'est comme si le soleil... Chaque fois qu'ils se voient, c'est comme si le soleil se levait une deuxième fois. « Attends, j'arrive !» Elle court traverser la rivière là où de petites roches frôlent la surface, couvertes de grenouilles. Elle court pour retrouver Orphée et ne regarde pas où elle pose des pieds, car la vie est belle, elle a l'impression de voler. Mais soudain, un éclair vert et une douleur acide comme des aiguilles dans la cheville. Eurydice, avant de s'écrouler, aperçoit un serpent à ses pieds. Les yeux jaunes, la mâchoire distendue, les crocs plantés dans sa peau. Chapitre 2. L'au revoir. Eurydice ! Le hurlement d'Orphée effraie toute la forêt. Un cri de loup blessé. Il jette sa lyre par terre, traverse la rivière, se précipite vers Eurydice. Elle s'est effondrée entre les roseaux. Tout le rose de sa peau s'est effacé. Eurydice ! Eurydice ! Répète Orphée. Son épouse est devenue comme une statue d'elle-même. Son visage est comme un masque. Ses cheveux sont comme une perruque et ses yeux... encore ouverts, sont comme du verre. Orphée cherche la morsure sur le petit pied pâle. Il y colle sa bouche pour aspirer le venin. Mais le venin s'est déjà mélangé au sang d'Eurydice. Il a vidé son corps de vie. La bouche d'Orphée ne suce que du sang qui a le goût de mort. Eurydice est morte! La forêt bruise de cette impossible nouvelle. Les roseaux la chuchotent aux ronces et aux oiseaux. Les oiseaux la piaillent aux autres animaux. Les autres animaux brament, meuglent, Coas et Croas. Les frênes frissonnant en informent les chênes, protégés des amadriades. Le monde est plongé dans une souffrance gigantesque. Les nymphes sont écrasées de tristesse. Bientôt, on n'entend plus une feuille frémir dans la forêt, plus un chant d'oiseau, plus un grésillement d'insectes. Pendant 3 jours et 3 nuits, Orphée refuse de laisser partir le corps d'Eurydice, alors qu'il sait qu'elle n'est plus à l'intérieur. « Il faut lui dire au revoir, Orphée !» finissent par souffler les nymphes. On fait une cérémonie sans chant, sans danse. On lui dit au revoir dans le silence. Orphée reste prostré. S'il ne bouge pas, se dit-il, peut-être qu'il se transformera en pierre. Il est jaloux des pierres, qui n'ont en elles aucune douleur. Il voudrait s'arracher le cœur pour le jeter ailleurs. Tout plutôt qu'être cet homme qui a perdu Eurydice. Il erre parmi les arbres, et puis un jour, il décide qu'il ne va plus pouvoir vivre si elle continue à être morte. Il n'y a plus rien pour lui sur Terre. Alors il prend une décision, il va aller la chercher aux enfers. Chapitre 3, Descente dans l'au-delà. Orphée prend sa lyre et part pour les enfers. C'est là où Thanatos, le dieu de la mort, emmène ses victimes. C'est là où Hadès, le dieu de l'au-delà, veille sur elle. « Tu es fou !» lui murmurent les nymphes. « Personne ne sort des enfers vivants. Tu ne retrouveras pas Eurydice. Elle est partie, Orphée. Essayer de la retrouver, c'est comme te tuer. »« Je suis déjà mort à l'intérieur, » dit Orphée. C'est peut-être cela qui l'aide à trouver l'entrée des enfers, à la laine de pourriture et d'eau boueuse. Il se souvient des héros qui ont réussi, eux, à y entrer et à en revenir vivants. Héraclès aux 1000 muscles et Ulysse aux 1000 ruses. Ils étaient bien plus forts que lui. Et eux sont revenus seuls, alors qu'Orphée a une autre mission, ramener son épouse. Mais d'abord, vaincre les monstres qui gardent les enfers. Le premier, c'est Cerbère, et il n'a pas l'air du tout content de le voir. Ce chien à 3 têtes, dégoulinant de bave visqueuse, accueille Orphée à l'entrée des enfers. Continuer son chemin, c'est être dévoré. Sauf si on sait dompter ce chien indomptable. Orphée prend sa lyre et commence à jouer. La première note rend le chien fou de rage. Il brise presque sa chaîne. Il n'a jamais entendu de musique. Ça lui pique les oreilles. Puis la deuxième, la troisième, la quatrième note s'élève dans l'air. Et Cerbère se sent rempli d'une tiédeur étrange. Il pose entre ses pattes ses 3 têtes. Orphée passe près de lui, pinçant toujours ses cordes, et entonne de sa voix argentée une petite chanson pour le bercer. Alors le chien s'endort. Et le poète risque même une caresse avant de partir. Chapitre 4. Le fleuve des enfers. Orphée rencontre ensuite le passeur Charon dans sa barque bancale. Charon fait traverser aux morts de l'Achéron, le fleuve des enfers. L'eau pue le vomi et les courants sont traîtres. Charon est le seul à en être le maître. Hep, on ne passe pas. Charon, je dois parler au dieu Hadès. Fais-moi traverser. Seuls les morts peuvent traverser ce fleuve, grince Charon. Tu as encore dans tes joues le rouge de la vie. Pourtant, la vie m'a déserté. Je dois retrouver Eurydice, ma femme qui est morte trop jeune. Charon hurle de rire. Ses dents sont jaunes comme des pattes de poule. Tu veux savoir, imbécile, combien de bébés je vois passer ici chaque jour? Tu crois que Thanatos attend gentiment? Le dieu de la mort ne fait pas d'erreur. Si ta femme devait mourir, c'est que c'était son heure. Orphée s'assied sur un tronc troué par les vers. Soit, dit-il. Et il saisit sa lyre. « On ne joue pas de musique ici !» grogne Charon. Orphée commence et continue. « Arrête ton vacarme !» hurle le passeur. Mais bientôt il cesse de protester, car la musique d'Orphée entre à l'intérieur de lui comme du lait dans un bébé. Son corps glacé et décharné se délasse et s'amollit. Sans pouvoir lutter, Charon laisse Orphée monter dans sa barque et il l'oriente, comme il le fait toujours, vers l'autre côté du fleuve. La barque chevauche les bosselures de l'eau et va cogner à l'autre rive. Et voilà, Orphée la fée, il est arrivé au cœur des enfers. Chapitre 5. Conversation avec le dieu des enfers. Au cœur des enfers, les âmes suppliciées passent leur mort à être torturées. Des cris et des gémissements inhumains font trembler les vallées aux herbes jaunes et les montagnes brunes. Les âmes des gens normaux déambulent sans but, sans détresse mais sans joie. Elles se murmurent des histoires de leur vie. Elles sont des ombres et le resteront pour l'éternité. Les héros ont un repos encore différent. Dans les Champs-Élysées, les prairies lourdes de grains dorés et de fruits, ils passent leur temps à se nourrir de choses délicieuses et à regarder les nuages. Sur cet ensemble préside Hadès, dieu des enfers. C'est devant lui qu'Orphée se tient maintenant. Hadès, tout en noir, est entouré de Minos, Éaque et Radamante, les trois frères qui pèsent les âmes des morts, et de sa femme Perséphone, blanc et gris comme l'hiver.
« Bonjour, Orphée !» dit Hadès de sa voix rocailleuse. « Ainsi, tu as réussi à pénétrer dans les enfers.
Hadès, je t'implore de libérer mon épouse, Eurydice, que Thanatos a emportée, alors que... » Hadès lève une main.
« Je sais parfaitement pourquoi tu es là, mais tu sais bien, Orphée, que c'est impossible. On ne ramène pas les morts à la vie. »
Minos, Éaque et Radamante hochent gravement la tête. La blême Perséphone sourit tristement. Alors Orphée attrape sa lyre et commence à jouer.
« Ce jeu-là ne prendra pas avec moi, poète !» tonne Hadès. « Je suis insensible à la musique. »
Sa femme Perséphone ne l'est pas. Les larmes dans ses yeux grossissent et roulent le long de ses joues.
« Cesse cette mélodie !» dit sèchement le dieu des enfers.
Mais Orphée ne cesse pas. Sous ses doigts, les cordes s'agitent et il ajoute sa voix, que même le chagrin n'a pas brisée. Les trémolos et les treillis s'élèvent dans l'air noir.
Hadès, implore doucement Perséphone. Ma chère, il est évident que non.
Le dieu des enfers est mal à l'aise. Il regarde ailleurs, il soupire. La musique s'enroule autour de lui comme une écharpe. Elle lui brûle le corps.
Arrête, poète!
Orphée n'obéit pas. Il chante le plus beau poème du monde pour sa femme perdue. Les dieux et les déesses pleurent maintenant comme des enfants. Et cette musique de douceur et de tristesse infinie finit par émouvoir même le dieu des enfers, le dieu au cœur le plus pierreux.
« Je vais t'aider, » dit-il à l'amoureux.
Chapitre 6. Sans se retourner.
« Je te rendrai Eurydice, » dit Hadès à Orphée. « Elle apparaîtra derrière toi et te suivra jusqu'à la surface de la terre. »«
Vraiment ?» s'écrie Orphée, le cœur battant la chamade.
« Ai-je l'air de mentir ? Elle sera derrière toi, ses pas dans ses pas. Quand vous atteindrez la surface, la vie reviendra dans son corps et tu la retrouveras. »«
Oh, dieu des enfers, comme je... »«
Pas de bavardage. Écoute-moi, écoute attentivement. Tu ne dois pas te retourner. » Avant que vous soyez tous les deux remontés à la surface. Tu m'entends? Tu ne verras pas Eurydice, tu ne chercheras pas à la voir. Tu attendras que ses pieds touchent le sol des vivants avant de lui accorder le moindre regard. C'est bien compris?
Oui, balbutie Orphée, tout ce que vous voudrez.
Alors voilà, elle est là.
Elle est là?
Orphée voit les dieux et les déesses braquer leur regard derrière lui.
Un instant, par réflexe, il manque de se retourner. Mais se souvenant brusquement de ce que vient de dire Hadès, il résiste. Eurydice derrière lui, vraiment? Il voulait sentir son souffle parfumé, sa présence chaude, entendre son rire. Mais seule la déclaration d'Hadès lui fait penser qu'elle est là en effet. Alors il se met à marcher. Tout en marchant, il parle à Eurydice. Il lui dit « Ma chérie, je te ramène à la surface, où nous danserons à nouveau dans les champs, où nous passerons nos nuits à parler, à rire, à manger. » Je te chanterai des chants encore plus beaux. Je te protégerai de tous les dangers. Je veillerai sur chacun de tes pas. Mon trésor, comme tu m'as manqué. Comme tu me manques encore. » Il espère que Eurydice l'entend. Elle est là, vraiment? Comment en être certain? Les dieux ont parfois des ruses terribles. Ploc! Alors qu'il arrive près de Charon, un gravier derrière lui tombe dans l'eau. Encore une fois, il ne se retourne presque, mais se retient. Ne te retourne pas. Il monte dans la barque avec Charon qui ne dit mot. La barque ne lui semble pas s'alourdir, mais peut-être l'âme d'Eurydice est-elle trop légère. Dans l'eau grasse, il tente d'attraper le reflet de son épouse, en vain. Puis il débarque et passe à nouveau devant Cerbère endormi. Et si le chien se réveillait ? Et l'attaque Eurydice, l'animal énorme grogne dans son sommeil. Orphée privote presque. Non, ne te retourne pas. Il continue son chemin. Mon Eurydice, mon unique amour, j'espère que tu m'entends. Ma tendre, ma douce. Des larmes d'angoisse tombent sur son visage. Et s'il arrivait à la surface de la terre et s'apercevait que personne ne l'a suivi et qu'il est seul, seul pour toujours. Hadès, hoquet Orphée, je t'en supplie, ne me trompe pas. Dieu, fais que Eurydice soit vraiment derrière moi. Il pose le pied sur la première marche du grand escalier qui mène à la surface. Orphée se rappelle à peine avoir descendu cet escalier. Il le monte maintenant et il lui semble interminable. Les marches de marbre sont froides et immenses. Tout est sombre, il n'y a pas un bruit. Est-ce que Eurydice le suit ? Suis-moi, suis-moi mon amour, mon amour. La surface met tant de temps à venir. Une petite lumière bleutée tout là-haut. Encore 10 marches, encore 100, encore... Combien de marches encore avant de quitter le monde des morts ? Et Eurydice, est-ce qu'elle le suit vraiment ? Est-ce qu'il marche trop vite pour elle ? Il repense à son petit pied blessé. Est-ce qu'elle arrive encore à monter l'escalier ? Ne te retourne pas. Il continue et continue à monter. Et enfin, l'éclat bleuté s'étend, et le ciel des vivants est là, plein de nuages et d'oiseaux. Quelques marches encore, et le pied du poète se pose sur l'herbe. Un autre pas, et il a les deux pieds dans la mousse tendre. Alors il se retourne. Derrière lui se trouve Eurydice. Chapitre 7. Le poète déchiré. Son Eurydice, derrière lui. Orphée, hébété, contemple la nymphe dont le corps transparent l'a suivi. Oui, vraiment, elle était là tout ce temps. Hadès ne l'a pas trompé. C'est comme si, après une nuit infinie, toute la lumière revenait dans sa vie. Eurydice ! Il se précipite pour la serrer dans ses bras, mais ses mains se referment sur une fumée, car Eurydice se tient encore sur la toute dernière marche de l'escalier. Le beau visage regarde Orphée. Il semble lui dire « Que n'as-tu pas attendu, Orphée, quelques instants de plus ? Notre bonheur était si proche. » « Non. Non, non, impossible !» murmure fiévreusement Orphée. « Non !» Partout où ses mains se portent, elle traverse Eurydice, son corps sans corps, son image triste. Les yeux continuent à le fixer. « Tu m'aimes tellement, Orphée, que tu es venu me chercher, et tu m'as perdu à nouveau parce que tu m'aimais trop. » Et comme une bougie qui s'éteint soudain, Eurydice disparaît, aspirée encore une fois par les enfers. Orphée tombe à terre, c'est fini. Pour la deuxième fois, il a perdu l'amour de sa vie. La tristesse d'Orphée n'aura jamais de fin. Il doit mourir pour ne plus souffrir. Tremblant, il va trouver les terribles bacchantes. Les bacchantes aux ongles d'aigle le déchirent en 1000 morceaux. Elles déchiquettent sa peau, écrabouillent ses os. Pendant ce supplice, le poète est heureux car il sait qu'il va être délivré. Les morceaux d'Orphée sont répandus dans le fleuve, ils sont emportés par l'eau qui gargouille. Les animaux, les plantes et les nymphes entendent une mélodie s'élever dans la forêt. C'est la rivière qui chante et bruisse du corps d'Orphée. Il a donné sa voix au fleuve, et pour toujours le fleuve chantera la tragédie de cet amour. »